Les colloques du Collège de France.
Maintenant, ça sera Francesca Nebbiolo qui parlera des textes de Telieri, bilan de 14 ans de publication et perspective.
En préparant cette intervention, pour le colloque de clôture du projet PCHM, je me suis replongée dans la délimitation géographique de la Haute Mésopotamie qu'avec Vincent Landard, on a employée lors de la table ronde organisée l'année dernière pour la rencontre de Prague. Un vaste territoire s'étendant de contreforts du Taurus au Arapicum et des Zagros à Alalar. Dans cet espace se côtoient des villes et des royaumes qui ont occupé une place centrale dans l'évolution politique et culturelle de l'époque, mais aussi des localités plus modestes et périphériques qui, au fil des décennies, sont parfois restées dans l'ombre de la recherche. En travaillant depuis quelque temps sur les sites mineurs de la Diala jusqu'au bassin de la Marine, l'occasion a été propice pour prendre le dossier du site de Tel Yerri à presque 40 ans de sa découverte. Dans cette occasion, je voudrais faire le point sur les recherches qui ont intéressé le site dans l'optique d'une reprise du corpus textuel en collaboration avec l'Université de Turin. Mais avant d'aborder la documentation cunéiforme, il convient de revenir brièvement sur l'histoire des recherches archéologiques qui ont permis de révéler l'importance de Tel Yerri dans le paysage de la vallée de la Marine. Le site a été fouillé à partir de l'octobre 1977 jusqu'en 1981 par la mission italienne du Centro di Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino sous la direction de Giovanni Bergamini. La mission rentrait dans le cadre des opérations de sauvetage entreprises avant la mise en eau du barrage du Hamerin. Ces travaux s'inscrivent dans un programme plus vaste qui concernait également d'autres sites de la région, avec pour objectif de documenter un patrimoine appelé à disparaître sous les eaux. Dès les premières interventions, l'ampleur du tel attira l'attention des fouilleurs. Avec la forme d'un vaste tel ovale d'environ 220 sur 170 mètres et d'une hauteur atteignant 13 mètres au-dessus de la plaine environnante, Tel Yerri apparaît comme un site important de la vallée. Les chercheurs furent organisées autour de plusieurs secteurs. Une première zone de fouille fut ouverte au sommet du tel afin d'explorer les occupations les plus récentes, tandis qu'une vaste tranchée stratigraphique fut implantée sur le versant sud-est, afin de reconstituer l'histoire du site sur la longue durée. Des sondages profonds ont permis d'atteindre les niveaux les plus anciens de l'occupation. Cette stratégie offrit une séquence stratigraphique complète couvrant près de 2 millénaires d'histoire. Les fouilles ont révélé une succession presque ininterrompue d'occupations depuis la fin du période Jemdenas jusqu'à la période Kassite. Peu de sites de la région ont livré une séquence aussi longue et aussi bien documentée. L'un des résultats les plus remarquables concerne enfin la fin de la période d'Ur III et la période paléo-babylonienne. Vous pouvez voir ici une synthèse des niveaux selon les données de la mission. Les découvertes majeures en termes d'ampleur sont liées aux niveaux 6 et 5. D'abord, un vaste complexe monumental témoigne de l'importance prise par Tel Yerri à l'époque du souverain d'Ur III lorsqu'ils étendent leur contrôle sur la région. Dans la partie occidentale de la tranchée, les fouilleurs ont identifié une zone sacrée, comprenant notamment une cella à porte moulurée et un grand hauteuil avec un podium sacrificiel. Le niveau 5 comprend correspond au moment où Tel Yerri apparaît attendre une importance particulière. Les fouilles y ont mis au jour un palais dont l'aire administrative et les magasins ont été partiellement dégagés. Les tablettes cunéiformes de ce niveau, composées notamment de listes de rations d'orge, d'argent, de laine et d'huile, ainsi que de lettres, confirment le rôle administratif de ces centres. C'est probablement à partir de cette phase que Tel Yerri entre dans l'orbite politique de Dejnouna. Le niveau 4 est en fait un peu plus récent. Bien que les structures y soient moins bien conservées, il semble aussi prolonger son forme appauvrie l'importance acquise par le site au niveau précédent. le niveau 3, correspond à une phase plus avancée de l'occupation au début du deuxième millénaire. À ce niveau, et c'est à ce niveau qu'appartient un petit sanctuaire isolé du tissu urbain par des rues sur ses quatre côtés. Cet édifice comprenait une cour, plusieurs pièces annexes, ainsi que deux espaces cultuels. C'est dans ce secteur qu'on a été découvert plusieurs textes administratifs, littéraires et divinatoires, notamment des documents liés à l'hépatoscopie, dont on vient voir certains exemples, révèlent l'existence d'activités mantiques développées au sein de la communauté locale. Les niveaux 2 et 1 appartiennent enfin à la phase cassite et protocassite. Les niveaux 1 correspondent au grand complexe construit au sommet du tel, interprété comme une résidence fortifiée ou palatiale. Aujourd'hui, le site fait partie des zones submergées par le lac artificiel créé à la suite de la construction du barrage de Hamrin. Toutefois, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Tel Yelki n'est pas un site définitivement englouti. Une étude récente menée par Andrea Titolo, fondée sur l'analyse de séries temporelles d'images satellitaires et l'utilisation du Normalized Difference Water Index, a montré que le site figure parmi ceux qui réémergent le plus fréquemment dans les réservoirs artificiels irakiens. Pas moins de 32 épisodes d'immersion ont ainsi été recensés. Les analyses spatiales ont révélé que Tel Yelki, tout comme Tel Baladan, est particulièrement sensible aux fluctuations des niveaux des réservoirs. Certaines années, la majeure partie de sa surface peut demeurer émergée pendant plusieurs mois avant d'être presque totalement submergée l'année suivante, comme ce fut notamment entre 1998 et 1999 ou encore en 2006 et 2007. Ces résultats rappellent que Tel Yelki demeure aujourd'hui encore un site vivant, entre guillemets, dont l'état continue d'évoluer sous l'effet des variations hydrologiques. Au-delà des vestiges archéologiques, les fouilles ont livré plusieurs ensembles de tablettes qui furent étudiées dès leur découverte par les épigraphistes de la mission, Olivier Rouault et Claudio Saporetti. La documentation connue à ce jour comprend un peu plus d'une centaine de textes provenant des niveaux paléo-babyloniens du site. Une première présentation de ces ensembles fut publiée en 1985 dans Mésopotamia 20, où les deux épigraphistes proposaient l'édition préliminaire de 34 textes appartenant au lot découvert en 1978 dans le bâtiment religieux lié à la communauté de Devin. Un second ensemble, mis au jour dans les niveaux plus anciens de la période d'Isin Larsa, a livré environ 70 textes supplémentaires. Les textes administratifs et économiques constituent de loin la catégorie la mieux représentée. Les listes des rations y occupent une place importante et offrent un aperçu précieux du fonctionnement de l'administration locale et des mécanismes de redistribution contrôlés par le palais. À côté de cette documentation majoritaire, les textes juridiques, épistolaires et divinatoires restent relativement peu nombreux. 4 textes juridiques, 14 lettres, dont plusieurs pourraient appartenir au moins en partie en même archive, et en effet, un certain nombre d'entre elles sont envoyées par le même personnage, Shahrum Haddad, ce qui laisse envisager l'existence d'un ensemble documentaire cohérent lié à son activité. Et enfin, 6 textes hépatoscopiques. Au cours des années suivantes, plusieurs campagnes de collation furent menées notamment par Claudio Saporetti et Paolo Gentili. Entre 1985 et 2001, une série d'articles permit de donner les copies de l'intégralité de textes oraculaires actuellement connus, ainsi qu'environ 65 documents supplémentaires. Les textes administratifs, en particulier ceux provenant du niveau 5, témoignent de l'existence d'une structure palatiale de dimension non négligeable. Certaines listes de rations mentionnent jusqu'à 150 bénéficiaires, vraisemblablement des hommes, et même en tenant compte du caractère partiel de la documentation conservée, de tels chiffres suggèrent l'existence d'une communauté dépendante du palais relativement importante. Malgré l'intérêt évident de ces ensembles documentaires, aucune publication n'a encore été consacrée à la totalité du corpus. Les textes demeurent dispersés dans plusieurs études partielles, ce qui rend parfois difficile une appréciation globale du rôle joué par Tel Yelki dans le réseau administratif et politique de la vallée de la Marine. La première question qui est restée sans réponse est celle de son identification. Malgré l'abondance des découvertes archéologiques et les découvertes textuelles réalisées au cours des fouilles, aucun document n'a jusqu'à présent permis d'établir le nom ancien du site. C'est dans ce contexte qu'est inscrit la proposition formulée par Giovanni Bergamini en 2022. Et si Awal était à l'actuel Telerhi? Des textes paléo-babyloniens découverts à Tel Suleima mentionnent explicitement Awal, ce qui a longtemps conduit les chercheurs, à partir des fosses irachides, à identifier Awal avec ce site. Cette identification n'est toutefois pas exempte de difficultés. Elle a été remise en question à la suite de nouvelles données, notamment la découverte d'une brique transcrite portant la titulature d'un rabbinum de Batir, qui a conduit à proposer d'identifier le site de Tel Suleimar, non plus avec Awal, mais avec Batir. En 2021, Ahmed Kramil Mohamed revient sur la question en soutien de l'identification avec Batir. La localisation d'Awal reste ainsi hypothétique, bien que son appartenance générale au bassin de l'Amrine semble faire le consensus. C'est précisément dans ce contexte d'incertitude que s'inscrit la relecture des données proposées par Giovanni Bergamini, qui plaide pour reconnaître Awal non plus à Tel Suleimar, mais dans le site de Tel Yerhi. En partant du fait qu'aucun document découvert à Tel Yerhi ne mentionne en effet le nom d'Awal, son raisonnement repose plutôt sur la mise en relation de plusieurs séries d'indices. Le premier élément concerne la place d'Awal dans les réseaux de circulation. Dans les textes, Awal apparaît comme une étape importante des itinéraires liant la Mésopotamie centrale aux régions orientales. Bergamini insiste en particulier sur le rôle des routes qui traversent la vallée de la Diala et le bassin de l'Amrine en direction du piémont du Zagros. Dans cette perspective, Awal ne serait pas seulement un toponyme isolé, mais un point de passage et de contrôle dans un espace de circulation à longue distance, actif du troisième millénaire et encore significatif au début du deuxième millénaire. Le deuxième argument est d'ordre topographique. Tel Yerhi occupe une position particulièrement favorable dans la plaine du Amrine, à proximité des axes naturels reliant la Diala aux régions orientales et septentrionales. La localisation permettrait donc d'expliquer la fonction attribuée à Awal dans les sources, celle d'un centre situé à la fois dans l'orbite de la Diala et ouvert vers les zones de contact vers le piémont du Zagros. Le troisième élément concerne la continuité d'occupation. Bergamini souligne que Tel Yerhi est l'un des rares sites du bassin de l'Amrine à présenter une séquence importante entre la période akkadienne, la fin du troisième millénaire et l'époque paléo-babylonienne. Awal est précisément attesté dans la documentation du troisième millénaire, puis encore dans les sources paléo-babyloniennes. À ces arguments s'ajoutent les données archéologiques issues des fouilles. Tel Yerhi apparaît comme un centre de moyenne ou de grande envergure à l'échelle du bassin de l'Amrine, capable d'assurer des fonctions de collecte, de redistribution et peut-être de contrôle territorial. L'identification de Tel Yerhi avec Awal ne peut pas être considérée comme démontrée en l'absence d'une attestation épigraphique directe trouvée sur le site, mais elle représente l'intérêt majeur de replacer Tel Yerhi au cœur de dynamiques régionales de la Diala et de l'Amrine. Passons maintenant à l'onomastique. La documentation de Tel Yerhi est constituée de manière prépondérante des textes administratifs et des listes de rations. Dans ce contexte, l'onomastique représente un point d'accès privilégié pour l'analyse historique du site. Outre les observations formulées par les épigraphistes et publiées dans les différentes études consacrées à ce corpus, une contribution particulièrement importante a été apportée par Paolo Gentili dans un article paru en 2011. L'auteur y propose une analyse comparative des anthroponymes attestés à Tel Yerhi et dans les principaux sites de la Diala. Cette analyse a permis de mettre en évidence une proximité onomastique particulière entre Tel Yerhi et certains centres de la Diala, notamment Chadupum et Neretum, davantage qu'avec Meturan, pourtant situé à quelques kilomètres seulement et considéré l'un des principaux établissements du bassin de l'Amrine. Gentili montre également que cette proximité s'accentue au fil du temps. relativement limitée dans les niveaux les plus anciens du début du deuxième millénaire. Elle devient deux à trois fois plus importante dans les phases les plus récentes. Cette évolution semble donc refléter une influence croissante, directe ou indirecte, de la sphère politique et culturelle des Jnuna. Cette augmentation des affinités onomastiques correspond en effet à une phase d'expansion progressive du royaume de Jnuna. Aux analyses détaillées proposées par Gentili, il est désormais possible d'ajouter quelques observations fondées sur les données onomastiques générales sur la Diala, publiées par Claudio Saporetti en 2021. En reprenant l'ensemble du corpus actuellement disponible de tels écrits, soit environ 259 anthroponymes catalogués, un élément attire l'attention concernant les noms théophores. La divinité Tishbak du Poliade de Jnuna n'y est que très faiblement représentée. Seuls deux anthroponymes contenant le pseudonyme sont attestés, pour un total de trois occurrences dans l'ensemble du corpus. Ces attestations appartiennent en plus à la phase la plus ancienne de la documentation considérée. La situation contraste avec celle observée à Mithuran, où l'on recense plus d'une vingtaine de noms construits sur Tishbak, tandis que leur nombre augmente dans le corpus de Neptum et de Shadupum. À Tel Yelki, le théonyme le plus fréquemment représenté sont au contraire Adad, puis, dans une mesure nettement moindre, Sin, Shamash, Ishtar. De ce point de vue, Tel Yelki semble se distinguer non seulement des grands centres méridionaux de la Diala, mais se confirme également bien distant du proche site de Mithuran, dont l'onomastique théophore apparaît davantage conforme à celle observée dans les principaux centres de la région. Un dernier élément mérite d'être signalé. En revenant sur l'identification du site, Ahmed Kamil Mohamed a récemment souligné que dans la documentation actuelle connue de Mithuran, les toponymes bâtir est attesté à plusieurs reprises et semble entretenir des liens très étroits avec cette ville. A l'inverse, Avoine n'apparaît jamais dans ce corpus. Cette absence ne saurait naturellement constituer une preuve en soi. Toutefois, si comme le suggère aussi les données onomastiques de Tel Yelki et Mithuran, que Tel Yelki et Mithuran ne semblent pas avoir entretenu des relations aussi étroites que l'on pourrait l'attendre des deux centres voisins, l'identification de Tel Yelki avec Awal offrirait peut-être une explication cohérente à l'absence de ce toponyme dans la documentation de Mithuran. Il s'agit là d'un indice supplémentaire qui paraît compatible avec l'hypothèse proposée par Bergamini. Enfin, parmi les informations que livre la documentation de Tel Yelki, permettez-moi de revenir sur l'unique formule de serment conservée dans le corpus actuellement disponible. La lecture et l'interprétation de ce passage ont été précisées par Salvo Viaggio dans son étude consacrée à la chronologie de Tel Yelki. Le document en question, présenté par Rouault et Saporetti dans Mésopotamie 20, est un contrat d'adoption provenant du lot de couverts dans le secteur, dans le sanctuaire. La partie centrale du contrat est malheureusement lacunaire, ce qui empêche de reconstituer avec précision l'ensemble des dispositions juridiques de l'acte. Le revers de la tablette conserve toutefois la clause finale de validation de la transaction, où figure une formule de serment particulièrement remarquable. Le texte emploie l'expression « azaka makalum », « manger le serment », et cette formule est bien connue dans la documentation de la Mésopotamie et dans les archives de Mali. Elle appartient à un ensemble d'expressions renvoyant à des rituels de prestation du serment impliquant l'ingestion d'un élément matériel associé à la sanction divine. L'intérêt du document réside dans les sanctions prévues en cas de contestation ultérieure de l'acte. À la suite du serment apparaît en effet une double peine, une amende d'une mine d'argent et une sanction physique touchant la langue du contrevenant. La formule prévoit que celle-ci soit frappée ou mutilée. Cette association entre sanctions pécuniaires et atteinte corporelle n'est pas isolée. Elle est attestée dans plusieurs textes de la Diala et du bassin de la Marine, notamment sous le règne d'Ibalpiel II. On la retrouve à Shadupum dans le texte YOS 1442, où la contestation du statut d'une femme consacrée à Shamash est formulée à travers l'expression « Nish Ikul, il a mangé le serment ». Là encore, la violation du serment entraîne à la fois une amende et une punition infligée à la langue. Une clause comparable figure également dans YOS 1472, où la même expression, l'ichanchulidipat, accompagne la formule du serment standard. Des parallèles peuvent encore être cités à travers l'ensemble de la région, à Meturan, dans plusieurs textes de Tulul-Katab, ainsi que dans des différents contrats de la Diala. Les formulations varient, mais l'association entre l'indemnisation financière et la sanction corporelle, corporelle, pas forcément liée à la prestation du serment, apparaît comme un trait, sinon récurrent, en tout cas remarquable, de la pratique juridique régionale. Au-delà de la Diala, cette construction s'inscrit dans un phénomène plus largement attesté. De Terkar à Radoum jusqu'à l'Artoum, de nombreux textes prévoient une double sanction associant compensation économique et peine corporelle, même lorsque le serment n'est pas mentionné. Les modalités de cette sanction varient selon les traditions locales. Ce n'est généralement plus la langue qui est visée, mais la tête du contrevenant parfois recouverte de bitume, tandis que d'autres textes évoquent une bouche remplie de plomb ou encore l'amputation des mains. Dans tous les cas, la peine possède une forte portée symbolique et vise à matérialiser la faute commise. Celui qui remet en cause un acte validé par le serment est puni précisément par la partie du corps qui permet cette transgression. On est ainsi en présence de ce qu'on qualifie de mirroring punishment, c'est-à-dire d'une peine qui reproduit symboliquement l'acte fautif lui-même. Dans le contexte spécifique du serment, cette dimension revêt une signification particulière. La langue n'est pas seulement l'organe de la parole, elle constitue également le point de contact avec la substance du serment dans le rituel exprimé par Akalum. La sanction établit ainsi un lien direct entre l'acte rituel, la parole jurée et le châtiment du parjure. Même isolée dans le corpus actuellement connu de Tel Yelchi, cette formule offre un éclairage sur les conceptions juridiques locales. Elle révèle l'inscription du site dans un horizon culturel partagé, à la croisée des traditions juridiques de la Diala et les pratiques attestées plus largement en haute Mésopotamie. Pour conclure, comme on l'a pu voir, plusieurs questions demeurent toujours ouvertes après de 40 ans de la découverte de Tel Yelchi. L'identification éventuelle du site avec Avoal, son intégration progressive dans la sphère des Chnouna, révélée, comme on a vu, par l'homonomastique, ou encore certaines particularités de ses pratiques juridiques, montrent combien cette documentation reste riche de potentialités. Dans cette perspective, une nouvelle étude du corpus apparaît aujourd'hui comme une étape nécessaire. Les premières éditions, ainsi que les travaux qui les ont suivis, ont fourni les fondements indispensables à toute recherche ultérieure. Grâce aux copies publiées, aux collations réalisées et aux analyses consacrées à l'onomastique et à la chronologie, elles ont permis de mettre à disposition une documentation jusque-là largement inaccessible et d'ouvrir de nombreuses pistes de réflexion. Toutefois, une partie importante du corpus demeure encore inédite ou fait l'objet que de publications préliminaires. Les différentes contributions parvues au cours des dernières décennies ont souvent privilégié certains dossiers spécifiques sans qu'une vraie réédition complète de l'ensemble de textes n'ait encore été entreprise. Une reprise du corpus permettrait donc non seulement de réunir les documents aujourd'hui dispersés dans plusieurs publications, mais également de les réexaminer à la lumière des outils désormais disponibles, et je pense évidemment à Archibab. La reprise du corpus est en discussion depuis plusieurs années avec Stefano De Martino de l'Université de Turin. Si la possibilité d'examiner directement les tablettes à l'occasion de la rencontre organisée à Bagdad de cette année est malheureusement n'a pas eu lieu. La disponibilité manifestée par le docteur Ali Mourad laisse espérer l'obtention de photographies, collations et données nécessaires à une nouvelle étude d'ensemble. Plus qu'un dossier clos, Tel Yelchi apparaît ainsi comme un chantier de recherche encore ouvert, dont la révalutation pourrait contribuer non seulement à une meilleure compréhension du site lui-même, mais aussi à renouveler notre connaissance de l'histoire de la Diala et du bassin de la Marine à l'époque paléo-babylonienne. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.